franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La pomme de terre, elle se contente de peu. Avec elle, rien ne se perd et elle donne tout. D'abord produit de substitution et de première nécessité, elle a su se parer en objet gastronomique. Dès le début du 19e siècle, on chantait au lait, en purée, au lard, en robe de chambre, en frites. De plaire à tous, elle a l'art. Venue des profondeurs de la terre, elle traverse le monde. C'est un produit global, mais qui demeure comme un marqueur d'identité locale. En l'an de grâce 2008, décrété par la FAO, Année internationale de la pomme de terre, se tenait dans la bonne ville de Tours un colloque international et pluridisciplinaire, la pomme de terre de la Renaissance au 21e siècle, avec elle on ne va pas s'ennuyer, c'est notre thème aujourd'hui, et notre invité, le co-animateur de ce colloque, Marc de Ferrière-Leveillé, bonjour.
Bonjour.
Colloque co-publié par les presses universitaires de Rennes, et les presses de l'université François Rabelais de Tours, où vous enseignez « Sous les terres des Andes sont les premiers mystères de la pomme de terre ». Elle a quoi, 2500, 3000 ans d'âge?
Oh
là-bas,
oui,
aux Andes?
Là-bas, elle a,
là-haut,
elle est de l'origine des civilisations. Les plus vieilles civilisations andines l'ont adoptée, l'ont déifiée, l'ont adorée sous... pas uniquement sous forme gastronomique.
C'est une divinité en Bolivie ?
C'est une divinité, la déesse Papa, qui est à l'origine de l'humanité pour les croyances de ces populations.
Pérou-Bolivie, d'ailleurs,
Pérou-Bolivie, ça se discute. Ils se disputent la paternité. C'est un élément culturel pour les deux peuples qui revendiquent chacun d'être le lieu d'origine, un peu comme la France et la Belgique avec la frite.
Et maintenant, la nouvelle déesse s'appelant biodiversité, il y a dans les parcs naturels du Pérou, beaucoup d'espèces qui sont conservées pieusement. Et on vous explique qu'on lutte contre le changement climatique.
Alors c'est plus
en mangeant de la pomme de terre.
Ça va plus loin que ça. Il y a effectivement le Centre international de la pomme de terre au Pérou qui conserve des milliers de variétés, dont plus de la moitié est non comestible. Et qui représente effectivement toute la richesse de cette plante.
Fernand Braudel dit que les Espagnols ont rencontré la pomme de terre en 1539.
Ouais. Oui, c'est sans doute vrai. Il se dit que Christophe Colomb aurait remporté les premières en Espagne. En gros, c'est au moment des grandes découvertes qu'on la découvre en Europe.
Ceux qui font alors le va-et-vient entre l'Amérique latine et l'Europe la rapportent en effet dans les cours. Ainsi, en 1585, un navigateur présent d'Angleterre la pomme de terre.
Walter Raleigh, Majesté.
Pirata.
Est-ce un pirate? Votre Majesté, cet homme est un pirate notoire.
Eh bien, monsieur, que désirez-vous?
Je suis de retour du Nouveau Monde, Majesté. J'ai pris possession de son littoral fertile en votre nom et j'ai appelé cet endroit la Virginie. J'ai également des cadeaux pour votre Majesté.
Ces cadeaux, Majesté, sont les fruits de la piraterie et ils appartiennent au royaume d'Espagne.
Voyons cela. Voulez-vous? Que m'avez-vous apporté?
La patata, Majesté. On la mange. Fort nourrissante.
Alors, la reine fait croquer la pomme de terre par son chambellan, parce qu'il y a quand même des préventions vis-à-vis de la pomme de terre, on y reviendra.
Elle a raison, hein, parce que si elle est crue, elle est dangereuse.
Et est-ce qu'on a raison de présenter Sir Walter Raleigh, pirate, aventurier, écrivain, comme l'introducteur en Angleterre.
Alors, il y a une double légende. On a dit longtemps qu'il était l'introducteur en Angleterre. On dit aussi qu'il est l'introducteur en Amérique. Puisque la pomme de terre n'est pas passée en Amérique du Nord depuis l'Amérique du Sud, mais c'est les Européens et sans doute les Britanniques, enfin les Anglais, qui l'ont implantée avec le tabac en Virginie. Donc, soit il l'a rapportée à la reine d'Angleterre, soit il l'a emportée d'Angleterre en Virginie. Mais il a sans doute joué un petit rôle.
Alors, fin 16e, elle est en Virginie, elle est en Italie, elle est à la frontière de la France, dans des principautés marginales, la principauté de Montbéliard, ou bien en Franche-Comté.
Ou en Bretagne.
Oui, pays pauvres avec peu de céréales.
Oui, les pays pauvres avec peu de céréales, qui l'adoptent sans le dire d'une certaine façon. Alors à Montbéliard, il y a en plus des agronomes qui s'intéressent à elle. Et puis parce qu'elle est adoptée dans les territoires allemands, et en Prusse en particulier, ou bien en Autriche.
Alors du côté de Bâle et de Montbéliard, on peut citer le nom des frères Bohun.
Tout à fait.
Médecins autant qu'agronomes.
Médecins autant qu'agronomes, comme tous ces savants de l'époque. Il y a l'Écluse au sud également, qui travaille sur la pomme de terre, qui sont les premiers à en donner un dessin. Dans les vieux ouvrages de cette époque, les premières reproductions de la pomme de terre, c'est dans les ouvrages des Bohun.
Il y a des méfiances et des résistances. On dit que du côté de Montbéliard protestant, on aime plus la pomme de terre que du côté des catholiques voisins.
Alors les religions s'en méfient parce qu'elle vient du sol et donc elle vient du pays du diable.
De la terre-mère, le christianisme n'aime que modérément.
Et même certains protestants, il paraît que les prêtres presbytériens auraient essayé de la faire interdire en Écosse.
Alors Bohun, du côté de Bâle et de Montbéliard, c'est un médecin. Au XVIIIe, le rôle déterminant va être joué par des praticiens de l'agronomie, c'est-à-dire par des gens qui sont pragmatiques, qui associent toutes les expériences, l'expérience de la pharmacie, l'expérience de l'armée, l'observation des besoins des classes pauvres. Ainsi, Parmentier, à qui la RTF, Radio-Télévision Française, rend les hommages ainsi, en 1953.
Monsieur le pharmacien général Muren, parlant au nom des pharmaciens militaires, avait ainsi présenté leur illustre confrère.
Sans doute, le nom de Parmentier est-il bien connu d'un chacun depuis l'école primaire. Ce qui lui a valu de passer à la postérité, c'est d'avoir inventé la pomme de terre, comme on le dit en plaisantant.
Mesdames et messieurs, moi, ministre des anciens combattants, je préfère saluer l'homme qui a apporté de la vie que de m'incliner devant celui qui a créé la bombe atomique pour les faire mourir et pour tuer plus de monde. Je préfère saluer ceux qui travaillent à la santé que ceux qui travaillent à la mort.
C'était la haute voix de Marius Moutet, ami de Léon Blum, qui finissait sa vie politique comme ministre des anciens combattants. Dites-moi, votre colloque de Tours que vous avez animé avec votre collègue Jean-Pierre Villiot ne fait pas une place excessive à Parmentier?
Non, on avait invité sa biographe pour faire une conférence grand public. Oui. Parce que quand on dit pomme de terre en France, on pense Parmentier.
Anne Muratori Philippe. Le livre est disponible, on le trouve sur notre site.
Oui, tout à fait. Et c'est un livre qui mérite d'être lu, qui est très intéressant. Et même dans son livre, en fait, la pomme de terre a une faible place. Parce qu'en fait, Parmentier, c'est un des nombreux sujets qu'il aborde. Et c'est en fait un de ses échecs.
Comment ça ?
C'est-à-dire qu'il n'arrive pas vraiment à faire adopter la pomme de terre et à régler le problème de la famine. Il faudra encore quasiment un siècle.
Mais il faut beaucoup de débats, en effet, à cette époque-là. Il y a ceux qui sont partisans de la céréale, ceux qui sont partisans de la pomme de terre, et d'autres, comme un nommé Cadet de Vaud, que vous réhabilitez, qui veulent panifier la pomme de terre.
Alors, c'était aussi le rêve de Parmentier. C'est vrai que c'est spécialiste de la gastronomie à cette époque, et Cadet de Vaud est intéressant pour ça également, pense que le moyen de la faire adopter par les paysans est en fait de la panifier pour qu'elle remplace sans problème les céréales, en se disant, si on fait le même produit qu'avec les céréales, ça sera plus facile. Le problème, c'est que la pomme de terre, c'est pas panifiable, et qu'un pain de pomme de terre, c'est réellement pas bon. Et donc, tous les essais échouent.
Parce que les agronomes, ils ont tendance à faire porter les responsabilités au conservatisme des paysans.
Oui, c'est plus facile comme explication.
Vous avez employé un mot qui me gêne, parce que c'est un anachronisme. Vous avez dit, et on parle là de la fin du 18e, Marc de Ferrière, que la pomme de terre pouvait relever de la gastronomie, mais pas à la fin du 18e.
Ah, la gastronomie, elle est inventée par nos grands auteurs gastronomiques, Grimaud de la Reynière, Brillat-Savarin, entre 1780 et 1820. Donc
oui,
c'est juste à ce moment-là.
Donc
c'est juste à ce moment-là, c'est le moment où Parmentier, enfin juste avant, fait ses essais avec Louis XVI.
C'est-à-dire que Parmentier avait composé en 1785 un menu pomme de terre pour convaincre la cour.
Oui.
Voilà. Mais évidemment, les événements allaient plus vite que lui. La cour, en 1792, elle n'est plus déployée à Versailles. Elle est réfugiée aux Tuileries, à Paris, cernée par les troupes révolutionnaires. Nous sommes début 1792, un extrait de la Marseillaise de Jean Renoir.
À la soupe, à la soupe. Ça va se refroidir.
Oh, tu es bien pressé, toi.
Oh, encore des pommes de terre.
Et pas beaucoup. Ce sont les dernières. C'est tout ce qui reste des couffins que nous avait donné la section des enfants trouvés.
Oui, mais beaucoup, pas beaucoup, j'en ai assez. Je refuse de me nourrir de racines. Je ne suis ni un cochon, ni un indigène.
Mais tu ignores donc, malheureux, que ce précieux tubercule peut être cuisiné de 20 façons différentes et toutes plus délicieuses les unes que les autres, qui nous fournit généreusement non seulement de la farine, des fécules, des médicaments, mais encore une excellente eau de vie. T'es le roi Louis XVI, lui-même, qui n'est pas un très bon politique, mais qui est un fin mangeur, eh bien, il se nourrit exclusivement de pommes de terre.
Dis, Baumier, si tu les veux pas, donne-les-moi.
Non, je les mange par discipline révolutionnaire.
Tu parles, alors, le spectre des usages sociaux s'élargit peu à peu à cette
oui.
époque, la fin
tout
18e.
Au long, fin 18e et tout au long du 19e, on a retrouvé une très belle gravure pour l'exposition universelle de 1867 qui représente bien cet élargissement du spectre, où on voit un bourgeois se faire servir dans une table riche en verre vaisselle et orfèvrerie par sa servante un plat de pommes de terre, et à côté on voit des paysans en train de faire une soupe à base de pommes de terre. Donc on voit que là, au moment de l'expo de 67, c'est une des images qui est donnée, elle concerne toutes les couches de la société.
À la même époque vivait le saint curé d'Ars, mm-hmm. dans les Dombes. Alors lui, c'était encore les usages simples. C'était 3 pommes de terre par déjeuner et pour le plaisir, une 4e pomme de terre. Si je veux faire le rapprochement avec les enfants juifs de Pologne, voici une chanson en yiddish qui dit à peu près la même chose. Le lundi, pomme de terre. Le mardi, pomme de terre. Le mercredi, pomme de terre.
Dienstag und Mittwoch. Bulbes. Donnerstag und Freitag. Bulbes. Shabbos in der Novena. Bulbes. Sonntag weiter. Bulbes. Bröt mit Bulbes.
Oui, mais le samedi, c'est gâteau de pommes de terre.
Bulbes. Ober und wieder. Bulbes. Emolina novena Bulbes kugere Sonntag weiter Bulbes Montag Bulbes Dienstag und Mittwoch Bulbes Donnerstag und Freitag.
Veuillez écouter La femme et le foyer.
Mes chers amis, bonjour. La recette aujourd'hui est celle des pommes de terre soufflées, recette demandée par plusieurs auditrices. Prenez de belles pommes de terre jaunes. Séchez-les très soigneusement dans un linge après les avoir épluchées et coupez-les en rondelles de quelques millimètres d'épaisseur. Jetez-les alors dans une bonne friture assez chaude, par très petites quantités, afin d'éviter qu'elles ne collent les unes aux autres.
Etc, etc. On ne va pas donner toute la recette telle qu'elle était indiquée par cette émission de la radio-télévision française 1950. Comment ça, il y avait la même chanson en français qu'en yiddish ?
Lundi, des patates, mardi, des patates, etc. etc.
Oui. Oui, mais vous voyez que tout passe par l'appellation, Marc de Ferrière, la dame qui anime ce magazine féminin de la radio française parle des pommes soufflées et vous racontez que il n'y a pas que l'introduction de la pomme de terre dans les recettes qui est intéressante, il y a aussi la multiplication des dénominations soufflées, noisettes, fondantes, moulées à la landaise, etc.
Dauphine, à la duchesse, effectivement, il y a une richesse de titres de plats. Un de mes préférés, c'est la chatouillard, du nom d'un chef du 19e qui avait inventé une recette, donc les pommes chatouillard.
Ouais. Alors justement, le livre de cuisine, la place de la pomme de terre dans le livre de recettes gastronomiques.
Alors ça, c'est une entrée très lente. En fait, quand on regarde les livres de cuisine, à partir du milieu du 19e, on commence à voir apparaître. On voit apparaître, par exemple, ces pommes soufflées, la purée, qui est quelque chose d'un grand classique assez tôt. Des pommes cuites à la friture de façon différente. Donc il y a la pomme pont-neuf, qui est la première version de la frite avec une section importante, la chatouillard qui est une autre version de la frite, et puis on voit apparaître toutes ces pommes un peu mélangées à partir de la purée, telles que la duchesse, la dauphine, etc. etc.
Vous préférez insister sur le rôle des chefs que sur le rôle des femmes ?
Ben, on sait bien que dans les livres de cuisine, les femmes apparaissent très tardivement. Dans les livres de cuisine du 19e, ce sont en général des cuisiniers qui écrivent. Donc on ne sait pas. Les femmes en faisaient sûrement, mais les traces sont plus compliquées à trouver. Parce que là, il faudrait avoir accès à leurs livres écrits à la main. Et ça, ce sont des corpus très compliqués à étudier et à obtenir.
J'essaie de vous faire passer aux aveux. Au fond, c'est parce que la pomme de terre est fade qu'elle va devenir un avantage dans la gastronomie, parce qu'il y a mille moyens d'accommoder ce qui est fade pour que ça devienne un mets d'accompagnement.
Alors, vous me permettrez de ne pas être d'accord avec votre adjectif, parce qu'en fait, quand on mange des bonnes pommes de terre, elles ne sont pas fades, mais il faut choisir les bonnes variétés. C'est un des défauts. Aujourd'hui, souvent, on propose des variétés un peu passe-partout, dont le goût ne domine plus. Mais il y a des variétés qui ont laissé des traces et qui sont connues. En France, tout le monde connaît la Charlotte, la Rosevold, la BF15. Au 19e, il y en avait une qui était extraordinaire, qui s'appelait l'Institut de Beauvais, qui est une pomme de terre qui avait des goûts naturellement. Alors ensuite, c'est vrai que c'est pas l'asperge, et donc on peut la marier avec beaucoup de choses en plus. Mais fade est excessif, à mon avis.
La Binche, par exemple, qui était la reine,
oui,
la référence, oui, dans les années 1930 en France,
oui,
elle a beaucoup de goût.
Alors elle, la Binche, sa qualité, c'est d'être particulièrement adaptée à la purée. Elle a un goût spécifique qui se retrouve bien quand on fait la purée. Et puis surtout, elle a la qualité d'être suffisamment farineuse pour s'écraser parfaitement et donc pouvoir se marier agréablement avec le lait, le beurre, la crème et ce que vous mettez dans la purée.
Mais la modernisation permanente de la filière pomme de terre, dont on va parler dans un instant, multiplie les variétés.
Oui, ils s'en créent des dizaines par an. Quelques-unes réussissent et prennent la place des autres. Certaines finissent par disparaître. Mais la Binche, par exemple, qui a été créée avant la guerre de 14, qui était effectivement dans les années 30 la première variété, est encore aujourd'hui une des plus grandes variétés. Regardez un sac de pommes de terre surgelées. Très souvent, ça vous est indiqué qu'il est fait avec des bonnes binches des plaines du nord de la France.
Retardons le moment de parler du surgelé. Restons au 18e et au 19e. 40 variétés au temps de Parmentier. 630 en France, qu'en paraît le livre d'un chimiste qui est important dans l'histoire de la création de la filière, Aimé Girard. Et là, on l'est dans les années 1880.
Tout à fait, on est à la fin du 19e. Oui, là, il y a une accélération extraordinaire de création des variétés entre le 18e, et la fin du 19e. En particulier pour répondre à des adaptations, répondre au sol, au climat et réagir aux maladies.
La filière, ça suppose une réflexion sur la production des plants.
Oui. C'est un des grands enjeux. Et ça, la France s'y intéresse à la fin du 19e parce qu'on a un problème de plants. Il y a une maladie qui détruit les cultures qui s'appelle la maladie de la dégénérescence, qu'on n'explique pas bien et qui s'avère être en fait une maladie liée à un virus. C'est d'ailleurs intéressant. Le premier virus identifié par les savants, c'est le virus de la pomme de terre. Aujourd'hui, les médecins, quand ils font leurs études, on leur explique que le premier virus qu'on a identifié, c'est celui de la pomme de terre. Et c'était un virus qui tuait les plants.
Réflexion sur la production des plants, réflexion sur leur sélection.
Oui. Tout à fait, parce que le problème, quand on n'a pas encore les techniques que l'on possède aujourd'hui, c'est que pour avoir des plants sains, il faut parfaitement sélectionner. C'est pour ça que la Bretagne deviendra la première région de production de plants de pommes de terre françaises.
Oui, il y a encore une grande société de production de plants au Finistère.
Tout à fait.
Gofex, qui fait de la concurrence aux Belges.
Qui résiste en particulier aux Néerlandais. C'est eux qui sont les grands concurrents. Mais depuis le début du 20e.
Il n'y a pas tellement de zones dans le monde où on peut produire des plants.
Non, parce qu'il faut ce type de climat océanique un peu humide qui facilite la poussée des plants sans faciliter le développement de certaines maladies.
Et l'Amérique du Nord, dans l'organisation de la filière, puisque maintenant on passe de l'objet gastronomique à l'objet technique.
La pomme de terre est un miracle de la science. À Agriculture et Agroalimentaire Canada, nous adorons les pommes de terre. En fait, en 1980, nous avons créé la pomme de terre chez Poudy, qui est rapidement devenue une des plus populaires au monde pour la fabrication des frites. Grâce à nos programmes de sélection, nous créons de meilleures variétés et nous contribuons à découvrir de nouvelles façons d'utiliser l'amidon des pommes de terre dans des produits aussi variés que la pâtisserie et les colorants à café.
Quand j'étais petit habitant des pommes de terre, j'en manquais pas.
Quand j'étais petit habitant des pommes de terre, j'en manquais pas.
Je cultivais la terre, là, oui, bien sûr, d'une petite pièce de terre, là, vous m'entendez bien.
Les plus grands des pommes de terre, là, vous m'entendez bien.
Oh, les plus grands des pommes de terre, là, vous m'entendez bien.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Marc de Ferrière, nous parlons de l'édition des actes d'un colloque qui s'est tenu l'année internationale de la pomme de terre à Tours. Pomme de terre de la Renaissance au XXIe siècle, presse universitaire de Rennes, presse de l'université François Rabelais de Tours, où enseigne notre hôte, Monsieur de Ferrière. Alors, Monsieur de Ferrière, on entendait la bottine souriante, c'était un écho du Canada, mais dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, la filière pomme de terre, comment ça marche ça, à partir des prescriptions du consommateur, j'imagine que, je sais pas, McDonald's, ils ont des sachets de frites.
Oui.
Hein, il y a des équipiers qui sont notés sur la façon dont ils distribuent leurs sachets de frites. Et en amont, tout doit être décomposé, analysé, découpé en rondelles pour la production de la pomme de terre.
Alors en fait, c'est pas quelque chose de tout à fait neuf. Ça commence d'une certaine façon avec l'invention de la chips à la fin du 19e. La première grande production industrialisée de produits transformés à base de pommes de terre, où il faut fabriquer un produit qui soit à qualité constante et qui soit facile à commercialiser. Alors dans le cas de la chips, la difficulté, c'est qu'il ne fallait pas qu'elle se ramollisse. Donc il a fallu inventer le sachet étanche qui permettait, un, de ne pas te mettre du gras partout et, deux, qu'elle ne ramollisse pas en vieillissant. Et puis avec le McDonald's et les années 50, ça va être la pomme de terre parfaitement calibrée, découpée, toute sur le même modèle, avec une variété américaine qui est issue de l'état de l'Idaho, puisque aux États-Unis, l'Idaho est surnommé le Potato State. C'est là que la pomme de terre s'est implantée massivement fin du 19e. C'est vraiment l'état qui produit les pommes de terre aux États-Unis et d'où est née une partie de l'industrie. Il y a une photo extraordinaire de Marilyn Monroe habillée avec des sacs de pommes de terre marqués Idaho Potatoes.
Donc, pour Marilyn Monroe, la pomme de terre est un objet de salut. Vous savez que si Cesaria Evora vient d'interrompre sa carrière, c'est la faute de sa consommation effrénée de chips, dit la légende.
C'est les chips ou c'est le sel qu'on met dessus?
Voilà. Est-ce que la pomme de terre d'autres pays ou d'autres continents fournit la chaîne McDonald's, McCain, parce que ça va ensemble. Est-ce que c'est McCain, d'ailleurs?
Alors McCain, c'est les Canadiens, en fait, hein, qui ont réussi à inventer le procédé de congélation des frites. C'est un enjeu considérable, puisque normalement, la pomme de terre ne supporte pas le froid. Si vous achetez des kilos de pommes de terre et que vous les laissez dehors et qu'ils gèlent l'hiver, elles deviennent non consommables. Et donc l'enjeu était d'être capable de surgeler la pomme de terre, pour pouvoir faire ces fameuses frites qui puissent être cuites très rapidement, puisque normalement, si vous avez des souvenirs d'enfance, vous rappelez que quand à la maison, on faisait des pommes de terre taillées à la main, il fallait les frire deux fois, en laissant reposer entre les deux. Et ça, McDonald's ne peut pas le faire. Donc il faut qu'elles arrivent pré-cuites et surgelées. Et McCain, c'est l'inventeur de ce procédé qui va lui permettre d'ouvrir un marché considérable.
Et alors, la production européenne, alors, la destination de cette société,
elle repose sur des productions locales. McCain a ses usines en France, dans le nord de la France, qui produisent des frites à partir de pommes de terre françaises. Pour le marché français, ils ont délocalisé comme ça leur production, puisqu'il serait absurde de les transporter à travers les océans.
Quatrième produit alimentaire mondial, produit global et en même temps local.
Tout à fait.
Remercions le Seigneur pour ce repas et sachons y discerner les preuves qu'il nous envoie. Car ces frites, McCain, éveillons-nous la gourmandise. Et la gourmandise est un péché. Oui, je vous le dis, ces frites croustillantes et dorées sont encore brûlantes des flammes de l'enfer. C'est l'instrument de Satan pour condamner vos âmes au châtiment éternel. Alors remercions le Seigneur qui nous donne le pouvoir de faire disparaître le démon de notre table. Alléluia.
Ouais, ce qui est encore local, c'est que, comme c'est un produit canadien, vous nous l'avez expliqué, Marc de Ferrière, il y a une forte connotation religieuse, je ne sais si elle est catholique ou protestante, qui apparaît encore dans cette publicité pourtant destinée à l'international.
Oui, mais ce qui n'est pas étonnant, je lisais en venant dans le train ce matin un sondage disant que le plat préféré des enfants était toujours la frite. Et on sait bien que l'Église catholique condamne depuis très longtemps la gourmandise. Et il n'y a pas que le chocolat, il peut y avoir aussi la frite.
La frite qui contribue à l'emploi, dit votre livre collectif, parce qu'il n'y a pas que les très grandes entreprises, il y a les TPE aussi, la baraque à frites dans les ch'tis.
C'est l'identification d'une société au nord. C'était un mode de vie pour de nombreuses femmes au 19e, dans la région lilloise, par exemple.
Puisque nous parlons de grands auteurs comiques,
«
Chacun sait qu'aux Indes, la pomme de terre est un légume sacré. C'est d'ailleurs pourquoi les Indiens sont en général moins gras que les Bavarois. Quiconque n'a pas vu une fois dans sa vie les spectacles envoûtants des charmeurs de pommes de terre de la place Léon Blum de Calcutta ne connaît rien à la magie de l'Inde. Regardez bien.
Bon, Pierre Desproges a inventé une place Léon Blum à Calcutta. On entendait un ministre de Léon Blum faire l'éloge de la pomme de terre tout à l'heure. Mais la pomme de terre en Inde, par exemple?
Elle est présente comme dans l'ensemble de l'Asie. Elle est arrivée en Asie, dans les, si j'ose dire, dans les cales des bateaux coloniaux français, anglais, néerlandais, en Inde, au Bhoutan, à Java, Sumatra, en Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui, elle est en train de conquérir la Chine.
La Chine?
La Chine devient le plus gros producteur de pommes de terre au monde. Elle est leader aussi pour ce produit.
Ce qu'on ne sait pas bien, c'est que la Chine connaît la pomme de terre à peu près à la même époque que l'Europe, non ? 16e, 17e siècle.
Oui, mais elle se développe lentement en Chine, plus lentement que chez nous. Et c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à un décollage très très fort de la production et de la consommation. Alors on a souvent une image fausse de la Chine. Quand on pense à la Chine, on pense au bol de riz. Mais le riz, c'est la Chine du Sud, c'est pas la Chine du Nord. Et c'est une des qualités de la pomme de terre, c'est d'être adaptable à de très nombreux climats. Puisqu'en gros, on peut la cultiver du cercle polaire jusqu'au tropique.
Oui, il y a un article dans votre livre, La Renaissance de la pomme de terre jusqu'au 21e siècle, consacré à la Norvège. Mais on pourrait dire aussi qu'on cultive la pomme de terre sur les lisières du Sahara.
Tout à fait. Il y a un programme de développement de la pomme de terre au Niger, par exemple. Donc on est dans une région parfaitement sahélienne et c'est aussi un aliment là. Donc c'est pour ça que je disais vraiment du cercle polaire. Au tropique.
Oui, il suffit d'un pivot rotatif d'immigration, de l'eau goutte à goutte, et puis au Niger, on peut cultiver la pomme de terre. Cependant, il y a une centaine de pays seulement qui cultivent vraiment de la pomme de terre. Alors les autres ?
Eh bien, c'est le même problème que pour nous au 19e, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de la cultiver, il faut la manger. Donc il faut que les populations acquièrent ou mettent au point des recettes l'utilisant, donc changent un peu d'habitude alimentaire. Les paysans n'ont pas refusé la pomme de terre parce qu'ils n'avaient pas envie d'elle. Au début, la difficulté était de leur dire comment la manger. C'est pour ça que Parmentier essaye de faire la farine et échoue, parce que ce n'est pas une bonne solution. Et le jour où on leur donne des bonnes recettes, du coup, ils l'adoptent. Et en fait, c'est le même problème aujourd'hui.
Quatrième produit alimentaire mondial, quels sont les trois autres ?
Eh bien, ce sont les céréales, le blé, le riz, le maïs.
Alors, les avantages par rapport au riz, beaucoup moins de main-d'œuvre ?
Surtout beaucoup moins d'eau. Moins de chaleur, c'est-à-dire qu'elle est vraiment beaucoup plus transclimatique, si j'ose dire. Elle s'adapte à toutes les altitudes. Il ne faut pas oublier qu'elle vient des sommets des Andes, qu'elle s'est adaptée au niveau océanique au Chili. Et puis, elle va du nord au sud, ce que ne fait ni le riz, ni le maïs.
Et par rapport aux autres céréales, au blé, les récoltes sont à peu près toujours assurées avec la pomme de terre ?
Non, il y a des maladies comme sur les autres céréales. Hein. N'oubliez pas la famine
de 1845 en Irlande.
Ou en Flandre. On oublie que la Flandre a été touchée de la même façon. Donc non, il y a des maladies, il y a des prédateurs. Le doryphore est connu. Ça reste un produit naturel.
Merci Marc de Ferrière. Votre livre avec Jean-Pierre Villot sur la pomme de terre, presse universitaire de Reims, presse universitaire François Rabelais.
De Rennes.
Et puis ce livre s'inscrit dans une collection, La table des hommes.
Dieu créa la pomme de terre.
Pan, 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 poire ou pomme de terre. Pan, 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 pomme de terre, poireau.
Ça me fait penser au peintre Cueco qui a beaucoup travaillé sur les pommes de terre et qui dit mais il faut que la pomme de terre soit silencieuse pour entendre, pour pouvoir entendre tous les propos que les hommes tiennent sur elle. Merci à vous, Jacques Sigal, Rémi Quincé, David Federman à la réalisation et à la technique, la préparation, Franck Olivard, Frédéric Martin, Meryl Moneghetti. On parlera lundi dans la marche de l'histoire des musulmans pendant la Deuxième Guerre mondiale en France.